Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Stéphanie Reynaud.
Peut-on concilier esprit de conquête et respect de la biodiversité? Tel était le thème du débat organisé par les jeunes dirigeants de Monaco. Pour répondre à cette question, 7 personnalités incontournables, dont Pierre-Yves Guénec, skipper du voilier jeune dirigeant pour la Route du Rhum 2006 et 2010. Son objectif est de permettre aux chefs d'entreprise de s'investir dans la préservation de la planète.
Nous, la construction de ce bateau en 2005-2006, avec l'aide des jeunes dirigeants, a été fondée énormément sur le troc, donc de la récupération de produits non utilisés dans l'industrie et qui pouvaient nous servir pour le nautisme, parce que ce bateau n'a pas été fait dans un chantier naval. Il a été fait avec une bande d'amis solides et téméraires pour arriver à produire un bateau qui est un monotype, qui a fait la route du Rhum 2006-2010 et qui part faire un tour du monde. Je donne quelques exemples. On a des panneaux solaires à bord, on a une éolienne, on a récupéré des planchers d'avion, on a récupéré des interrupteurs d'avion, on a récupéré des cloisons de camions frigo pour fabriquer le bateau à l'intérieur. Et puis, les générations futures font attention au tri des poubelles. Quand on jette une canette de boisson en aluminium, on peut refaire des toiles d'aluminium. Donc, il faut que les jeunes soient conscients de cette évolution sur le marché mondial.
Ça, c'est pour la préservation de la ressource. Est-ce qu'il y a un lien avec la préservation de la biodiversité?
Il y a un lien, c'est-à-dire que tout est un petit peu lié. Quand on traverse les océans, on s'aperçoit que la pollution existe. Donc si les pays sur la planète ne font pas attention à ça, nous on va aller en Antarctique avec des gens du CNRS, la fonte des glaces est là, ça s'active à toute vitesse et à un moment donné, il va falloir que la collectivité mondiale le prenne en charge ou en prenne conscience très fortement parce que le phénomène il est là, il existe. Et j'ai aucune intention de le mentir parce que ça existe, parce que je suis pas le seul à le prouver. Tara a été là-bas, d'autres bateaux, et c'est un phénomène qui existe et qu'il faut absolument arrêter, quoi.
Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco.
C'est un sujet intéressant, l'esprit de conquête. Est-ce qu'il est compatible avec la protection de la biodiversité? Je pense que c'est même pas une histoire de concilier l'esprit de conquête avec la biodiversité, c'est que ça doit aller avec. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas s'épanouir, avoir des idées, monter des projets, si on n'intègre pas ça dans un niveau plus large, et notamment dans le niveau de son écosystème proche, donc de respectable biodiversité. Et c'est important que justement, avec ces jeunes dirigeants qui vont demain prendre les bonnes décisions, on puisse discuter de cela avec eux.
Emmanuel Delannoy, directeur de l'Institut Inspire.
Oui, ce qui est important à dire, c'est qu'on est dans un port ici et on a des explorateurs qui sont partis faire le tour du monde il y a quelques siècles. On était au 17e, 18e, 19e, dans le siècle de découverte en fait, de la biodiversité, de la conquête de la biodiversité. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, ce qu'il faut, c'est reconquérir une place pour la biodiversité, c'est changer le regard et c'est faire alliance avec la biodiversité. Quand on était au 19e siècle, en fait, on a découvert quelque part le coffre-fort, le trésor de la biodiversité. Au XXe siècle, on a vidé ce coffre, et au XXIe siècle, il va falloir à nouveau remplir ce coffre. Et c'est intéressant parce que c'est une nouvelle alliance entre l'économie et la biodiversité qui est en train de s'inventer en ce moment, et on va en parler ici ce soir.
Mauro Colagreco, chef patron du restaurant Mirazur.
Je suis basé à Menton, mais j'ai un projet en Argentine, où je suis originaire, des jardins de protection des variétés autochtones, où on cultive des différentes variétés qui sont en train de se perdre à cause des grands monocultures qui s'est fait des soja en Argentine. Et c'est un programme assez varié parce qu'il n'y a pas que le cultif de ces légumes. C'est aussi, on fait une petite banque de graines. On réinsère par un programme éducationnel la culture de ces plantes dans les zones rurales par les écoles qui sont près des jardins. Et tout ça, ça va être autofinancé par une cuisine centrale qui va produire ces légumes. Il va les faire en conserve.
Donc effectivement, ça répond bien à conquérir un nouveau marché et en même temps conserver ces espèces anciennes, ces variétés anciennes de légumes. Et là-bas, en Argentine, vous n'avez pas le même problème qu'en France, parce que nous, on a Cocopelli qui fait la même chose au niveau des graines, oui. Mais eux se heurtent malheureusement au brevet.
Oui, en Argentine, on a encore un problème plus profond qui est, comme je disais, le pays qui était le grenier du monde est devenu un pays de monocultives. Et et surtout des sauces OGM. Il y a eu une hausse, une grande hausse de consommation d'agrochimiques qui fait que bon, les problèmes qu'on a ici, on les a peut-être pas là-bas, mais là-bas, on a des vrais problèmes beaucoup plus profonds.
Emmanuel Delannoy.
Sur Cocopédie, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que autant on peut se poser la question sur la coexistence entre un modèle agricole OGM et un modèle agricole non OGM. C'est difficile de dire, je ne pense pas aujourd'hui que la coexistence soit possible, parce qu'il y a forcément pollinisation croisée. Par contre, coexistence entre une distribution de semences libres de type Cocopédie et une distribution de semences qui sont dans un catalogue officiel, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle résistance en fait, de la part du GNIS notamment et des autres défenseurs du catalogue officiel. Je ne vois pas en quoi Cocopédie les menace. Et pour moi, une vraie coexistence est possible. De la même manière, d'ailleurs, qu'en informatique, il y a une coexistence entre un logiciel libre et un logiciel commercial et qu'a priori, l'un n'a pas fait s'effondrer l'autre. Donc la coexistence est possible et donc la biodiversité est possible dans la distribution des semences.
Lydia Bourguignon, cofondatrice du laboratoire d'analyse microbiologique des sols, et son mari, Claude Bourguignon.
Pourquoi ? Si on laisse Cocopédie, c'est la liberté et on ne veut pas la liberté des gens. Parce que si on est libre, on est libre penseur et on choisit. Et nos multinationales, ce qui nous gouvernent, ne veulent pas forcément qu'on ait le choix. C'est la liberté, Cocopédie. Et on lutte toujours contre la liberté.
Je vous repose du coup la première question qui était le titre de la conférence de ce soir. Comment garder l'esprit de conquête, avoir l'esprit de conquête et en même temps préserver la biodiversité?
Donc notre laboratoire est un laboratoire qui mesure justement la biodiversité des sols, à la fois leur activité biologique et la faune qui reste dedans. Alors les résultats sont assez effrayants. Hein. On a perdu à peu près 90% de l'activité biologique de nos sols et de leur faune. Et nous développons des pratiques agricoles qui permettent de refaire revenir cette biodiversité. Et ça a l'avantage pour les agriculteurs de mettre moins d'engrais, moins de pesticides, d'avoir des produits de meilleure qualité. Donc tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire à la fois les consommateurs qui ont des aliments de mauvaise qualité, ça remplace la malbouffe, et ça permet en même temps aux agriculteurs de vivre, alors qu'à l'heure actuelle, ils ont beaucoup de mal à vivre en vendant leurs mauvais produits.
Est-ce qu'on peut dire avec le lien de la conférence de ce soir que finalement c'est reconquérir la biodiversité?
Oui, on peut dire reconquérir, mais je pense que déjà faire... C'est pas une reconquête, hein, parce qu'elle est là, donc en fait c'est la remultiplier. Effectivement, on mène une bataille, mais le mot reconquérir, oui, peut-être, c'est assez fort pour moi. J'ai l'impression d'être en reconquérir, il y a un côté lutte perpétuelle, même s'il y a une part de réalité. Mais il faudrait aussi montrer que c'est simple, que ce n'est pas forcément toujours une lutte. Il y a des gestes très simples au niveau des agriculteurs, mais au niveau de chacun, de nous, mais des agriculteurs, des vignerons, des politiques, où on pourrait, sans être toujours dans un combat, parce que dans reconquérir, il y a une notion de combat. Et je pense que ça bloque beaucoup de jeunes parce qu'ils ont l'impression que c'est une lutte, alors qu'on pourrait faire ça aussi avec des méthodes plus douces.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement d'un geste très simple?
Pour quelqu'un, par exemple, qui a un jardin personnel, eh bien, arrêter des fois de mettre le gazon à la poubelle, gérer mieux ses déchets, ne pas toujours vouloir la plante exotique. On a de très très belles choses en France, dans chaque coin. Ça, c'est un geste simple. C'est un geste pour la planète.
Et un geste simple pour un agriculteur, c'est d'arrêter de labourer, c'est-à-dire arrêter de défoncer la terre, de lui arracher sa peau. Et nous développons ce que nous appelons le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire que nous maintenons constamment la terre sous des cultures. On arrive même à faire 2 cultures par an, ce qui permet à l'agriculteur de beaucoup mieux vivre plutôt que d'en faire qu'une. Et ça permet au sol, parce que le sol a besoin d'être protégé, il déteste le soleil, la vie du sol déteste le soleil. Et la plante, c'est un peu comme nos cheveux sur nos têtes. Et donc arrêter de défoncer la terre, c'est un geste simple, ça coûte moins de fuel, ça consomme moins d'acier et ça protège la vie des sols.
Lucie Brasseur, journaliste et écrivain, elle animait la conférence.
Alors en fait, moi je suis journaliste économique et en France, j'ai rencontré beaucoup de patrons de PME qui, tous plus ou moins, ont développé à leur niveau des initiatives de ce type de maîtrise de la biodiversité, de respect de la société, de respect de l'environnement, de respect de leurs salariés. Et il y a quelques mois, presque un an maintenant, je suis partie dans un mini tour du monde où je suis allée rencontrer des entrepreneurs français notamment, mais également des entrepreneurs du monde entier, indiens, australiens, indonésiens, thaïs, qui à leur tour développent des initiatives de ce type-là. Et on se rend compte que les initiatives qui peuvent réellement changer le monde viennent des entrepreneurs.
Héritiers des cow-boys du Far West, nos entrepreneurs d'aujourd'hui ouvrent la voie pour faire rimer conquête et respect de la biodiversité.
C'était un reportage réalisé par Stéphanie Reynaud.